Donc, Rabbi Yehuda Bar Simon Patach. Donc, une nouvelle ouverture, celle de ce Rabbi Yehuda Bar Simon. Lui, il part avec, ça c'est un peu nouveau, il part avec un pasouk dans Daniel. Le pasouk dit, ou galé amikta, ou mesa prata. Ou galé amikta, זוגיינום, שנאמר, ולא ידע כי רפאים שם, ואומר העמיק ירחיב, ומסתרתה זוג על עדן, שנאמר, למחסה ולמסתור מזרם וממטר, ואומר, תסתירם בסתר פניך, voilà, on va dire d'avoir après, on verra après. Voilà, il prend ce verset de Dan, qui dit qu'il dévoile oui, les choses profondes et les choses cachées, un mikta profond et moustar, c'est comme Esther, si vous voulez, des choses cachées. Ou galé un mikta, ce qui est très profond, c'est quoi? C'est le gainom. Ce gainom, parce qu'il y a un passage qui dit l'oyada, il ne savait pas. Oui. Qui Rephaïm Sham, il ne sait pas, il y a là Rephaïm, bon, on peut parler des ombres, on peut laisser comme ça. Veomer Emik Irchiv, et on dit aussi que il a approfondi, il a élargi. On parle ici du Sheol. Et on apprend ce verset que ce Sheol, ce Gehinnom là-bas, c'est la résidence des morts, mais qui sont pas dans le Gan Eden, quoi. Il l'a approfondi, il l'a élargi, donc on l'a fait plus grand encore. Et ce qui est caché, c'est le Gan Eden. C'est marqué dans le Passouk, qui dit que on parle de la gloire divine. Elle sera le marché, le mistor. Elle sera pour un refuge et pour une cachette, miserem ou mimatar, pour se protéger donc du courant, du vent et de la pluie. Et on passe où dit Tastirem Beseter Panecha, et on s'adresse à Hachem, Cache-le Beseter Panecha, tu les caches dans le cachet de ta face. C'est pas exactement comme ça qu'ils ont traduit, mais je lis le texte tel qu'il est vraiment. D'abord, Acher, très souvent il y a plusieurs lectures. C'en est une. Ou galé amikta ou misar prata, elu maaseyem shel reshaim, ce sont les actes des méchants, shenema, oi, amamikim maashem, c'est marqué, les oi, malheur, en quelque sorte, à eux, mais c'est des actions de reshaim, amamikim maashem, ils sont en quelque sorte plus profonds. Mais Hachem, ça veut dire, ça viendra d'Hachem, s'ils sont tellement. Ou Mistrata, et le Masir, Shel Rechaim, de nouveau. Shenema, l'Astir et ça. Ici, une version. Alors, ידע מה בחשוכה, אלו מעשיהם של רשעים, c'est ce qu'il y a dans les ténèbres, ce sont les actions des rechaïm, שנאמר והיה במחשך מעשיהם, leurs actions sont dans les ténèbres, ou נהורה עימה, שרי, et la lumière sera avec lui, אלו מעשיהם של צדיקים, ce sont les actions des צדיקים. דכתיב ואורח צדיקים כאור נוגה, la lumière des tzadikim est comme la lumière de Noga, on verra. Vomé or zaru à la tzadik, la lumière est lui pour le tzadik. Amar Rabbi Abba Zchongaya, uneoraime shere zu melech HaMashiach. Et sur ce même verset qui disait que c'est les massifs des tzadikim, lui il dit qu'il s'agit celui avec lequel il y a la lumière, c'est le Melech HaMashiach. C'est marqué « Kumi ori, lève-toi ma lumière », etc. Le Psikta Amar, Rabbi Yuda bar Simon, « Mitrila briyato shel olam, ou gale amikata ou misrata » C'est-à-dire, depuis le début de la création du monde, il a dévoilé les choses profondes et les choses cachées. « Bereshit bara Elohim » Et on n'a pas, il a dit Bereshit bara Elohim, mais on n'a pas expliqué. Ve'echan Peresh, mais où est-ce que on a expliqué ce que voulait dire Bereshit bara Elohim? Lehanan, plus bas, dans le Navi, on dit Anote Chadok Shamaim, Ve'taharetz, pardon, Anote Chadok Shamaim. Il étend l'extension, comme on étend les cieux, là c'est toujours l'expression qui est utilisée pour les, pour le ciel, que le ciel est étendu, c'est marqué, Hachem fonde la terre et il étend les cieux. Donc il n'a pas expliqué plus, mais où est-ce qu'il explique? Donc il tend le ciel, c'est ça, comme une tenture. Donc, il étend comme on étend une tenture, il étend le ciel, c'est Rakia qui est présenté comme une tenture, quasiment depuis le début. Kadosh Baruch Hu a étendu la menu tendue qui a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Ça, il n'explique pas plus, toujours, mais plus loin il l'explique, toujours. Plus loin, ça veut toujours dire dans le Navi ou ailleurs, pas du tout dans la Torah. Là, c'est chez Iob, qui la sheleg yomar eve aretz. À la neige, il va dire, soit terre. Il va transformer la neige en terre. Le tzedek afar le mutsak, la poussière Le tzeket afar le mutsak. Donc, il agglomère, très joli. Il agglomère la poussière en de la terre, c'est-à-dire, du coup, c'est avec la poussière. Il fabrique la terre. Vayomer Elohim yehi'or velo piresh. Elohim a dit que la lumière soit, il n'a pas expliqué. Ve'echan perash. Où est-ce qu'il l'a expliqué? Oteor katsalma. Il étend de nouveau la lumière comme un vêtement. Bien. Bon, c'est pas beaucoup plus clair que les autres fois. Non. Bien. Alors, essayons de voir un peu. commence avec ce passouk de Daniel qui parle de ce que il ou Galéa Mikata ou Satrata, il dévoile les choses qui sont profondes, les choses qui sont cachées. Alors la première explication qui est proposée, c'est à partir du passage de Michelet, Velo yada ki refaim sham, veomer emik irchiv. Donc, il va expliquer qu'est-ce que c'est les amikata, les amikata. Il dévoile le Geinom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dévoile le Geinom? Ce passouk de Daniel, il voudrait nous dire ici que Akadosh Baruch Hu dévoile, pratiquement comme première chose, dévoile le Geinom. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut prendre avec l'autre. Les choses qui sont cachées, c'est le Gan Eden. Donc ça aussi, c'est dévoilé. Et le Gan Eden, il est mis en rapport avec une forme de protection. Une protection, c'est un passage que... Ce passouk du Navi, c'est un passouk qui est utilisé dans la Gemara, au début de la Gemara de Souka. La Gemara, elle se demande ce que veut dire Souka. Qu'est-ce que c'est une Souka? Et on dit peut-être une Souka, c'est justement un endroit où on est abrité du grand vent et de la pluie. Ce serait ça la fonction d'une Souka, une cabane, c'est...
Ah, c'est pas forcément la soukha de Sukkot.
Oui, non. Au début, on discute de la notion de soukha, de la soukha de Sukkot. Alors ça, je sais jamais comment on fait pour... C'est vous qui avez appelé? Bien. Alors, je veux dire que ce qui serait donné d'emblée, c'est le Geinom et le Gan Eden. C'est-à-dire en quelque sorte un lieu, je sens a priori pour nous le Geinom, c'est pas un lieu très intéressant, c'est un lieu de souffrance, un lieu de... Ce qui serait très... c'est dans les profondeurs, si on peut parler comme ça. Et puis, il y a un lieu qui lui est caché, c'est-à-dire on est à l'abri, on est caché, quelque part, ça c'est le Gan Eden. Et le pasouk dit, Tastirem beseter panecha. Dit, cache-les en quelque sorte. Beseter panecha. Avec l'ombre de, les ténèbres. L'ombre de ton visage. Donc, c'est une forme de protection. Il est protégé par Akadosh Baruch Hu lui-même, en quelque sorte. Protégé, mais pourquoi il faut. Pourquoi le Gan Eden est une protection? Bon, a priori, pourquoi une protection? Si c'est une récompense, ça ne veut pas dire une protection. D'accord, il y a une protection contre quoi? Donc il y aurait comme un endroit où on est protégé. Est-ce que ça vient de ce que la condition humaine, c'est une condition où de toute manière on n'est jamais parfait, donc il y a y a toujours des critiques possibles. Et donc le Gan Eden, c'est un lieu où les critiques n'ont pas accès, en quelque sorte, ce serait ça. Ça veut dire qu'en vérité, là, on a les hommes. Les hommes, ou bien ils font mal, à ce moment-là, ils tombent dans les profondeurs, ils sont dans le Gehinnom, ou bien ils n'ont pas fait vraiment mal, mais ils n'ont pas non plus fait tellement bien, et par conséquent, ils seraient soumis à la critique, c'est-à-dire à Milatadine qui viendrait aussi les accuser, et quelque part, le Gan Eden serait un lieu où il serait à l'abri justement de ces critiques, et on demande même à Hachem, l'ombre de ton visage, d'accord, va les protéger en quelque sorte, cache-les par rapport à la Midat Hadin, par rapport à la rigueur, par rapport aux accusateurs, si vous voulez. Il faut cacher les hommes parce que essentiellement ils sont critiquables. Ce qu'ils ont fait, a priori, pas parfait, donc la Midat Hadin qui ne laisse rien passer, elle va venir critiquer. Et donc, ce qu'il vient dire ici, c'est cette ouverture, en quelque sorte, c'est de dire que dès la création, l'être humain, en fait, avec son imperfection, il est à risque, quoi, quelque part. C'est un peu ce qu'on entend quand Hachem a envisagé de créer l'homme. C'est bien qu'il y a les anges qui s'y sont opposés, ils ont dit, mais c'est un être de mensonge, etc. Et il n'a aucune idée de ce que c'est que la vérité, etc. Et c'est Hachem qui avait pris la fameuse vérité qu'il a jetée par terre. Il a dit, Emet me Eret Titzmach, que la vérité, elle va pousser de la terre. C'est-à-dire, c'est les hommes qui vont devoir travailler cette vérité, ça ne va pas tenir comme ça. Ça ne va pas venir d'en haut, c'est à eux à inventer, à être à la hauteur du Emet. Donc ici, on aurait cette idée que, avant la création du monde, il y aurait déjà la mise en place de ce Gehinnom et de ce Gan Eden pour pouvoir protéger ceux qui vont être créés.
Mais où est-ce qu'on voit que c'est avant la création?
Alors, c'est pas évident, sauf que on va avoir le pasouk de Bereshit seulement après.
Ah oui.
Il commence pas Bereshit. Vous comprenez, il commence. Il est avant. Enfin, c'est comme ça que les commentateurs ont l'air de l'entendre.
Mais je comprends pas comment vous arrivez vous faites le pont, enfin, comment vous arrivez à l'homme étant imparfait.
Parce que tout ce qu'on envisage pour l'être humain, c'est ou le Gehinnom et ou le Gan Eden, mais le Gan Eden, pas comme une. Pas comme un salaire, pas comme un, mais comme un lieu de protection, comme on dit, c'est, vous serez à l'abri du vent, de la pluie, enfin, c'est des images, d'accord? C'est un abri.
Oui.
Alors pourquoi il n'y a que deux options?
Ouais.
Ou bien l'homme, il finit au Gehinnom, ou bien il faut qu'il soit, le Gan Eden, c'est seulement une protection. Donc il n'y a pas la version salaire ou récompense dans cette façon de présenter les choses.
On n'en peut pas. Tu peux imaginer un parcours où il rentre dans le Gehinnom, il se purifie, on enlève les scories, et puis ensuite il passe au Gan Eden.
C'est une des théories que le Gehinnom, c'est un lieu de passage. De toute manière, tout le monde a l'air de penser comme ça. Le Gehinnom, sauf pour des archi-réchaïm, d'accord, ça n'est qu'un lieu de passage. Et certains disent que même les tzadikim, ils traversent le Gehinnom. On n'accède pas. Ailleurs, si vous voulez, sans avoir au moins traversé. Et le problème, c'est que la traversée, elle prend peut-être plus ou moins de temps, c'est tout ce que ça veut dire. Pour les Rechaïm standards, ça prend un certain temps. Pour les Rechaïm encore moins bons, ça prend encore un peu plus de temps. Pour les Tzadikim, on passe en TGV. Je veux dire.
Mais ce ne serait pas un temps de purification, enfin de...
Alors, c'est pas obligatoirement. C'est... Pour ceux qui y restent, alors c'est une façon de payer en quelque sorte sa dette. Et ensuite, on a payé la dette, donc on peut entrer au Gan Eden. Mais pour les Tzadikim Mamash, ils n'ont pas besoin de purification. Bon, il faudra expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils voient, quand même, si on passe à travers le Gan Eden, on va voir la souffrance des autres. Et c'est que, si on est un tzadik, de voir la souffrance des autres, c'est une souffrance. Il y a quand même une certaine empathie. Ce sont des êtres humains qui souffrent.
Mais ça concerne quoi ici? C'est le corps ou l'âme?
Bon, on n'en sait pas pour l'instant. Non, mais c'est l'être humain, quoi. C'est l'essentiel de l'homme.
Dans le Gehinnom, c'est l'homme.
On ne sait pas encore. Je voulais toute la différence corps et âme, elle n'est pas obligatoirement comme toujours de chez nous, quoi. Pour nous, c'est un tout. Parce que le corps, c'est Nefesh, et la partie Nefesh, si vous voulez, et la Neshama, et tout ça, c'est dans la construction de la Neshama.
Mais à un moment donné, il y a une dissociation qui va se faire.
Il y a une
Dissociation qui va se faire.
Alors, quand
à un moment donné, du
parcours. Au moment de la mort, effectivement, il y a une dissociation, mais c'est très possible que quelque chose qui s'appelle le corps, mais dans la version âme du corps, quoi, si vous voulez, ça va avec la neshama, et ça peut passer, effectivement, c'est ça qui passerait au Gehinnom, peut-être.
Parce qu'en fait, ici, il y a quelque chose dans ce qu'on appelle âme qui est plus proche du corps, et
c'est vrai que
les distinctions qui sont faites entre, je crois, Nefesh, Ruach et Neshama.
Alors, a priori, on doit dire que ce qui est dévoilé, c'est dévoilé avant la création, donc c'est dévoilé dans le texte, en quelque sorte, pour que nous, enfin, ceux qui étudient la Torah, vont savoir que c'est comme ça que le monde a été créé. Que le monde, quand on arrive dans le monde, en quelque sorte, on sait que dans ce monde, il y a le dévoilement et le dévoilement dans le texte de la Torah, dans le Midrash en quelque sorte, sur la Torah, on nous dévoile qu'il y a Gehinnom et qu'il y a Gan Eden. On a besoin de le savoir.
Sans l'expliciter.
Alors, c'est un tout le problème de la partie qui est dite est dans la Torah jamais expliquée. C'est toujours expliqué dans Yeshayahu ou dans Iyov, etc. Donc la Torah est de ce point de vue-là, en tout cas Maaseh Bereshit, c'est un récit. Un récit, mais dans lequel on n'explique pas. Je te raconte ce qu'il en est. Un récit dévoile les choses. Pour ceux qui vont entendre le récit.
C'est toujours une question de Bernard, parce que ici, ok, on pourrait là dire c'est dévoilé, donc ça veut dire que quelque part il y a dans le projet, même avant la brillade, le Gehinnom et le Gan Eden, okay, mais en fait vous êtes en train de nous dire qu'en définitive c'est ce qu'on dévoile, c'est simplement que ça existe, hein. On ne va pas l'expliciter.
C'est ici, dans le texte de la Torah. Mais le Midrash, il demande. Mais où alors où est-ce qu'on a explicité la chose? Donc, on dit, explicité dans le Navi, explicité dans Iov, etc. Mais on est en train de te dire que, et c'est ça qu'il faudra une chose sur laquelle on doit réfléchir, quel est le but de l'exercice, de nous raconter quelque chose? Oui. On ne sait pas ce que c'est. Mais si vous voulez, je vais donner un exemple avant la Souka. C'est un très bon exemple. La Torah, elle te parle d'une soukha, mais nulle part elle a expliqué ce que c'est qu'une soukha. D'accord. Vous savez ce que c'est une soukha, d'où vous le savez? Parce que dans la Torah orale, on a expliqué le mot soukha. L'in soukha, c'est fait comme ci, comme ça, c'est le masafet soukha, le traité des Talmud de soukha, ou de Mishnah d'abord, on t'explique ce que c'est qu'une soukha. D'accord? De même qu'on te parle de prier de Sadar, d'accord? On te dit, finalement, la Gemara, après avoir discuté longuement, elle dit, bon, finalement, après avoir envisagé que ce soit du poivre ou que ce soit de ceci ou cela, on dit, bon, alors ce sera un étrog. Ben, c'est vrai. Ça, ça fait partie de la Torah orale, qui nous dit qui nous dit ce dont on nous a parlé dans le fameux récit de la Torah, sans jamais nous avoir dit de quoi il s'agissait. La Torah, elle s'explique longuement, tu prendras, puis tu vas apprendre, tu ne sais même pas de quoi on parle. Donc là, c'est encore une des nombreuses preuves. Si vous voulez, que la Torah est complètement illisible sans la Torah orale. La Torah écrite, elle ne dit rien. Ça commence ici aussi. Je te parle de quelque chose, il y a un dévoilement, d'accord? Alors, le Midrash vient te dire un préalable à la création, quelque part. Je te rapporte, les autres, ils ont expliqué Bereshit, etc. Lui, il explique un espèce de préalable à la création. Avant la création, je te dis un principe ou des éléments fondamentaux qui vont t'aider à comprendre la création.
Mais on ne dit pas que c'est un préalable.
C'est la question que vous avez posée.
C'est ce que tu as posé.
C'est ça, votre question, c'est bien.
Voilà. Je l'ai retrouvé, d'accord.
D'accord, alors je vous ai dit, c'est regarder un peu plus bas. Seulement après, il va expliquer Bereshit bara Elohim, Velo Piresh. Il n'a pas expliqué. Et un pirège plus bas, il a expliqué qu'il étend le ciel, etc., que la terre n'a pas dit ce que c'était. Plus bas, il explique que ce qu'on transformait la neige ou la poussière en terre. D'accord ? Mais bon, c'est une drôle d'explication d'abord parce que la neige et la poussière, elles viennent d'où ? Pour faire de la terre, oui. Et après, il donne un vieil or. Mais il n'a pas dit ce que c'était que le or. Non. Oui, le or, il est vu comme ôté or kasalma. Donc il va, on dit que c'est Hachem qui se revêt de ça, comme si c'est un grand vêtement, mais donc il étend, si on prend juste le mot, cette partie de la phrase, on peut lire, il étend, comme on a dit avant, qu'il étend le ciel. C'est noté, ôté, c'est la même chose, si vous voulez. Ôté, et ici, bon, ici, on peut dire il s'enveloppe, disons, comme ça. Or, il s'enveloppe de lumière comme dans un vêtement.
Qu'est-ce que ça même veut dire, la note, elle est super compliquée.
Pardon ?
Même la note qui est censée dire un truc.
Je ne sais pas ce que dit la note, mais...
La note, elle dit... Oui, je la lis.
Oui, s'il te plaît.
C'est comme tu l'as pas. Oh,
on isole ici la séquence ciel-terre-lumière, laquelle correspond au plan eschatologique, au temple construit, détruit, puis rebâti. Donc, ciel-terre-lumière, temple construit, détruit, puis rebâti. En commentant par d'autres textes celui de la Genèse, le Midrash souligne que le texte est d'abord récit. C'est-à-dire une séquence de termes s'appuyant entre eux et tendus vers le dernier. La création et l'histoire, puisqu'énoncées comme récit, prennent un sens et supposent un aboutissement. Du coup, entre guillemets, les ténèbres sont mises en perspective. Elles ne sont plus qu'un moment du déploiement de la lumière. Le récit de la Genèse illustre parfaitement cette transposition. Les ténèbres et la lumière, entités opposées, irréconciliables, constituent une unité en devenant les termes de la séquence nuit-jour. L'expression de la Genèse, entre guillemets, « et ce fut soir » et « ce fut matin » présente les ténèbres, baptisées « soir », comme tendues vers le matin. Énoncer la création comme récit, c'est lui assigner un devenir et un parachèvement.
C'est beau, mais
c'est-à-dire qu'on presque l'étudier la note aussi, quoi, en fait. Et ils disent qu'il y a une continuité, en fait, C'est une trajectoire.
Une explication de texte.
Disent que c'est, ça veut, je ne comprends pas l'idée du récit, en fait.
Mais c'est ça, c'est ce que disait Laura. C'est-à-dire, on te dévoile des choses. C'est un récit, mais on ne t'explique pas ce qu'elles sont, ces choses-là.
Je te raconte quelque chose, mais ouais. À la limite, tu ne comprends pas obligatoirement. Le récit, hein, il n'est pas...
Bah oui, je comprends, ouais. Bon,
ouais, c'est-à-dire que il ne se comprend pas par lui-même. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs les éclairages sur le récit.
Non, parce que là, la dernière phrase, elle est, ça semble être presque comme une conclusion. Énoncer la création comme récit. Donc d'abord, si on énonçait la création, mais pas comme récit, ça pourrait être comment alors?
Et
pas
ben, comme en récit. Expliquant tout. Voilà. Oui.
Comment?
En expliquant les phénomènes. Physico-chimique du
début. Non, c'est pas parce qu'on explicite plus que c'est pas un récit. Ça peut être un récit plus détaillé.
La question c'était, et si c'était pas un récit?
Oui. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ah oui, tu veux dire d'un point de vue physique.
C'était pas un récit,
physique,
c'est-à-dire que si on expliquait tout. Donc, puisque là on n'explique pas, on présente et sous forme d'un récit. Voilà. Ici,
mais récit, c'est pas opposé à expliciter. C'est pas le pendant d'expliciter. Alors, donc la note, il dit ici, c'est énoncer la création comme récit, donc ce qui c'est lui assigner un devenir et un parachèvement. C'est-à-dire, c'est parce que c'est en récit que ça indique une trajectoire et une fin.
Voilà. Donc, si vous voulez, dans toute la Torah, sauf les mitzvot éventuellement, même ça, éventuellement. Mais quand on décrit quelque chose, prenez, je ne sais pas, le récit de la sortie d'Égypte. Bon, c'est quelque chose qui ne se comprend pas vraiment, ou en tout cas, ça appelle une explication, ça appelle une suite. C'est-à-dire, ce récit, quand vous le racontez, d'accord, qu'est-ce qu'on attend ? On te dit, bah, tu vas le raconter à ton enfant, et ton enfant, il va poser des questions. Et donc ça va enrichir le récit, et ensuite lui il va se construire avec ce récit, et à ses enfants il va apporter le récit enrichi, mais eux, mais les enfants de cet enfant-là, ils vont aussi reposer des questions, et on va enrichir, un récit c'est fait pour être
alimenté,
être complété, être... et éventuellement être dévié ou être dirigé dans telle ou telle, grâce à l'interprétation, dans telle ou telle direction. Donc ici, ce qu'on veut dire, enfin il veut dire qu'on présente la création, pour l'instant on n'a pas encore vu que, on voit bien que c'est un récit, c'est-à-dire au sens où l'accent est, à la limite je pourrais dire, peut-être il faut commencer peut-être tout de suite par le verset de Bereshit, qu'on pourrait dire, si on commence par la psikta, c'est un autre midrash, vous voyez, qui cite là, au milieu, est-ce que comment ils l'ont dit, c'est une psikta?
Oui.
Oui, alors, il cite la psikta, et dit, on a toujours ce même Rabbi Yehuda Bar Simon, qui dit, Mitrilat briyato shel olam, ou galé amikta, amikata, ou mistrata, mistrata, pardon, dès le début, il dévoile les profondeurs et les choses cachées. D'accord? Et, exemple, le Réchit Bara Elohim. D'accord? Velo Piresh. Mais il n'a pas expliqué ce que c'est le Réchit Bara Elohim. Mais où est-ce qu'il l'a expliqué? Donc, en fait, il faut lire avec le etc. Le récit de Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le Gomer ici. Velopirash, il n'a pas expliqué. Où est-ce qu'il l'a expliqué? Donc on voit très bien, la psychta, elle sait qu'il doit y avoir une explication quand même. C'est quoi cette chose qui est sans explication? À quoi ça sert de nous dire des choses qui sont incompréhensibles? Si tu me l'expliques nulle part, comme si tu avais sifflé en l'air, je veux dire, sifflé, ça sert à quoi? Donc, la question c'est, ouais, et où? Il a dévoilé. C'est-à-dire que, c'est un paradoxe, dans la psychta, Rabbi Yehuda, il vient, il dit, il a dévoilé, dès le début, il a dévoilé. D'accord? Il n'a pas dévoilé, justement. Le début, c'est, il a dit quelque chose qui appelle un dévoilement. Bon. Et il appelle ça, hein, dès le début, il a dévoilé. Bon, c'est pas vrai, il n'a pas dévoilé depuis le début, puisque justement, tu me dis que velo perech. Donc il n'a pas, si on n'explique pas, on n'a pas dévoilé. Il a dit quelque chose qui justement était voilé. Il faut le dévoiler, mais où est-ce qu'il va le dévoiler? Quand il va l'expliquer, ben, il explique les halal, plus bas. Anoter hadok shamayim. Et maintenant, si tu prends la suite du verset, Bereshit bara Elohim et ta shamayim v'et haaretz, cette deuxième partie, il haaretz, je ne sais même pas ce que c'est, velo perech. Et où est-ce qu'il l'a expliqué? Plus bas, chez Iyov. D'accord? Il a dit à la neige, devient terre.
C'est fou, quoi. C'est...
D'accord? C'est ça, d'abord, on verra en quoi c'est une explication.
Ouais,
mais au moins, si vous voulez, il a dit quelque chose, j'ai utilisé le mot terre, et puis je dis quelque chose que je suis censé connaître, à savoir la neige. Tout le monde connaît la neige. D'accord? On est tous des Esquimaux, quoi. Tout le monde connaît la neige. Il a dit, il a donné l'ordre à la neige de devenir la terre. Voilà, maintenant je t'ai expliqué le mot Arès qui était dans le récit de Barrel. Vous êtes de mauvaise foi.
C'est mal barré.
D'accord, c'est peut-être, j'aurais peut-être dû commencer par là avant toutes les autres explications, mais parce que celle-là, elle, ici on comprend bien ce qu'il veut, quoi. On comprend bien que je te raconte quelque chose.
C'est ça.
D'accord ? Et qui appelle ?
Oui, voilà.
Qui appelle, alors,
cherche.
Bon, lui, il appelle ça un récit, mais c'est vrai qu'il raconte quelque chose.
Ça, c'est quand même assez génial.
Quoi ? Qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce qui est génial ?
Vous vous souvenez, au tout début, on avait rapporté l'histoire que Rashi ramène, que Koach Ma'asa Bigid Lamo, la puissance de ses actions, il l'a raconté, il guide, c'est une agada, il guide l'amo, il y a un récit qui est fait. Hachem a fait, qu'est-ce que c'est la spécificité? Rashi donne tout de suite le début, pourquoi il y a toute l'histoire de Bereshit, alors à la limite c'est. Si la Torah c'est un livre de mitzvot, eh bien elle doit commencer à prendre chasser la femme. Et c'est tout. Quoi. On n'a pas besoin ni de toute la Genèse, ni le début du Sefer Shemot. Donc il guide l'âme. Il a raconté quelque chose à son peuple. Mais ce récit, ça veut dire qu'il faut comprendre, si c'est ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, enfin, quand on a parlé de ça, je vous ai dit, je crois qu'il faut considérer que tout le Sefer Bereshit et tout le début de Shemot jusqu'à Chodesh Hazelachem, jusqu'à au chapitre 12, où il parle de, je crois que c'est 12, là où il dit, commence la première mitzvah où vous allez fixer le calendrier, tout ça, c'est Koach Ma'asav. C'est-à-dire, tout ça, c'est ce que Hachem dévoile à son peuple en particulier, qui va lui permettre de comprendre ce qui se joue. Parce que si effectivement la Torah elle avait commencé à faire chasser la reine, c'est tombe du ciel.
Ça aurait été pire.
On n'a rien compris du tout. On ne sait même pas qui c'est ces gens-là. À qui on parle, etc. Tout ça, ça doit être expliqué. En plus, il nous faut les avots pour expliquer qu'on est sorti d'Égypte. Puisque
vous voulez dire qu'il n'y aurait pas eu d'histoire, même.
Oui, même pas. Oui, on n'aurait même pas. Ça ne voulait rien dire du tout.
C'est-à-dire qu'on serait nous-mêmes ex nihilo, quoi.
Ouais,
non, il y aurait une histoire. Ouais.
Donc là-bas aussi, on a déjà cette idée d'un récit, si vous voulez. Il guide l'amour. D'accord. L'expression, c'est bien une notion de raconter, en tout cas. Il le raconte, mais justement, il raconte, et c'est ça qui est important, c'est que raconter, c'est en fait dire quelque chose qui appelle un questionnement, qui va permettre d'enrichir, etc. Donc ça veut dire, ici, c'est comme si on disait, ce que je t'ai dit, ce qu'Hachem nous a dit, là, dans Bereshit Bara Elohim, le chemin, ça nécessite d'aller regarder dans tout le Tanakh.
En fait, c'est comme si, avant même la création, il introduisait l'idée du récit de la Haggadah. Enfin, c'est comme la Haggadah, c'est pas une Haggadah, mais si, enfin, oui. Et que ça n'est fait que pour aller se questionner sur.
Quelque chose qui. Alors, la première donnée, semble-t-il, d'accord, que ce Rav Yehuda Bar Simon. Il voit à partir de ce verset de Daniel, les choses cachées, les choses profondes. C'est quoi? Le Gehinnom et le Gan Eden. Mais, c'est justement, il y a un dévoilement dans ce qu'est le Gehinnom. Le dévoilement, on l'a par les psukim qui ramènent pour dire que c'est le Gehinnom. D'accord? Il dit le. Les choses profondes, c'est le Gehinnom. D'où tu vois ça? Bon, c'est de nouveau un truc balancé. Non, mais bon, je te dis les psukim. C'est le Gehinnom, pourquoi? Parce qu'il y a ce pasouk dans Michelet qui dit « Velo yada irifaim sham, veomer emik v'irchiv ». Le pasouk, il n'est pas non plus archi-clair. D'accord? Mais au moins, il y a un pasouk dans Michelet, un pasouk dans Yeshayahu. Donc, quelque part, ça veut dire les dévoilements, si on veut comprendre les dévoilements, il faut déjà aller regarder ce que Shlomo Hameler va raconter dans Michelet, et l'histoire de la prophétie de Yeshayahu.
Il faut surtout ce rabbi qui, lui, il a été trouvé dans ce passage de Michelet, quelque chose qui pourrait expliciter le.
Oui, moi, c'est son travail. Lui, il dit, voilà, moi, j'ai compris.
Moi qui me trouble. Ici, la Torah, elle a été écrite sous la dictée de Hachem, et les Sadducéens, ils ne reconnaissaient pas la loi orale.
Donc eux, ils étaient là. Les Sadducéens, ils sont beaucoup plus tard.
Oui.
Eux, ils ont déjà eu tout. Ils ont tout.
Oui.
Les Sadducéens, ils sont...
Absolument. C'est pas parce qu'ils ne comprenaient pas. Non, mais simplement pour dire qu'il y a... Voilà.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que bon, lui, il sera Yehuda Bar Simon, bon, c'est son éclairage. Et, d'accord, je vous ai dit, ils essayent de dire quelque chose sur la création. D'accord, tout ce qu'on a vu ici, et qu'on va voir, ils essayent de dire quelque chose sur la création, et comment ils font ils font comme on fait en science, je vous ai dit. On a un objet, on ne sait pas ce que c'est. Eh ben on va le bombarder, on va le chauffer, on va l'étirer, et on va voir comment il réagit. D'accord? Et à ce moment-là, on va dire, ce truc-là, si on va faire son analyse chimique, voilà, il contient du mercure, du soufre, etc. Son coefficient d'élasticité, c'est ça. Son coefficient de son poids, c'est ça, etc. Ça va nous donner une idée de ce que c'est. Un peu comme on pourrait dire, qu'est-ce que c'est une souka? Une souka, c'est, a priori, c'est quatre murs, d'accord, et un toit de branchage. Puis après, si tu veux, on n'a pas vraiment besoin de complètement de quatre murs complets, on peut avoir seulement trois murs et un morceau, et puis après, les branchages, ils n'ont pas besoin d'être, il faut que ça soit du végétal, d'accord, tu ne peux pas utiliser quelque chose qui reçoit la touma pour prendre comme toi de la souka, il y a des dimensions minimales pour une souka, d'accord? Il y a la question de savoir, est-ce qu'on peut faire une souka circulaire? Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va regarder le carré qui est inscrit dans le cercle ou bien circonscrit au cercle pour savoir si la souka a les bonnes dimensions, d'accord? Est-ce qu'on va la regarder comme un truc carré, d'accord? Carré ou rectangulaire, peu importe, et on va regarder si ça a les bonnes dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans le carré qu'on pourrait inscrire, ou bien le cercle qui est inscrit dans le carré? Non. D'accord, on va voir comment il faut regarder les choses. Puis toutes sortes de choses qui vont où on va regarder exactement puis le toit de la soukha, à quelle hauteur il peut être, d'accord, pourquoi il faut qu'il soit à telle, pas plus haut que ceci et pas plus bas que ceci, pourquoi est-ce qu'une tente de camping dans laquelle on peut simplement se glisser, ça ne marcherait pas, quand même si c'est un toit de branchage. Hein, si ça n'a pas une hauteur, si ça n'a pas un mètre de hauteur, ça ne sera pas bon. Vous comprenez? Donc, en bombardant en quelque sorte, on va connaître, on va finir par définir ce que c'est qu'une soukha. Finalement, vous allez dire c'est une cabane, mais ce n'est pas vrai. D'accord? Les cabanes que font les gens dans les. Etc., ce n'est pas obligatoirement une soukha. Parce que s'ils ont un toit en tôle, par exemple, c'est pas. Et s'ils n'ont pas de toit du tout, parce que c'est les pays où il ne pleut pas, et ben c'est pas une soukha. D'accord?
Oui, donc, plus. Excusez-moi pour que je comprenne bien. Ici, c'est l'exemple que vous prenez.
C'est un mot dans la Torah.
D'accord. Mais ici, à moins que je me plante complètement par mes connaissances, ici, la soukha, pour moi.
Parce que la Mishnah, est, la halakha n'est jamais d'après la Mishnah directement. C'est justement la halakha, elle va toujours être fixée d'après la discussion qui va suivre la Mishnah, elle va confronter les Mishnayot les unes aux autres, et de cette discussion, on va tirer des idées, puis il va y avoir un choix.
Mais les premières Mishnayot, c'est Moshe.
Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah orale.
Ouais.
D'accord, mais je vous ai donné. J'aime bien les.
Oui, mais à cette époque-là, ça veut dire quoi quand vous dites
aussi, là, toute la Torah tout.
Oui,
tout,
je
tout,
sais.
Non, mais ça dormira. Ce que vous êtes en train de dire, là, sur la Torah, Moshe Rabbeinu l'a déjà entendu aussi. Tout ce qui sera dit, Moshe Rabbeinu l'a entendu. Seulement, il l'a entendu, si vous voulez, je vous donne toujours cette image, comme un éventail. Mais l'éventail était fermé. D'accord? Donc quand vous avez un éventail fermé, éventuellement vous voyez sur la tranche un peu de couleur, et éventuellement, d'accord? Et quand vous allez ouvrir l'éventail, vous allez voir des choses extraordinaires. Et c'est ce que nous faisons. Nous n'arrêtons pas d'ouvrir l'éventail, d'accord? Et au point que quand Rabbi Akiva il ouvre l'éventail, mon cher Abel il voit, il ne comprend rien. Il faut que Rabbi Akiva lui dise, mais tu connais cette loi-là qui t'a été donnée, c'est ça, c'est de ça que je parle. Quand il a les deux côtés, il arrive, les deux extrémités, il voit le chemin qui passe de là à l'autre.
Donc quand vous prenez l'exemple de la soukha, ici, la soukha, comment elle doit être construite?
Non mais, attends, excusez-moi, c'est pas la soukha, comment elle doit être construite. Je ne sais pas ce que c'est qu'une soukha.
Oui.
L'objet soukha, il est défini de cette manière-là.
Je vais tout de suite au résultat. Donc ici, cette soukha, quand elle est, voilà, on connaît les dimensions, on sait, chacun va pouvoir la construire parce qu'on connaît les dimensions, etc. Et la taille, c'est ça, de leur discussion et de leur décision en termes de
oui, c'est tout ce que je dis, là, ils étaient dans peut-être des écoles différentes, où le semestre, quand on a enseigné Bereshit, c'est une année, c'était Rabbi Yehuda Bar Simon qui était invité à faire la leçon d'ouverture. La leçon d'ouverture, il a ouvert, pas tard, il a ouvert les choses, comme ça. Et après, on a étudié toute l'année, en fonction de ces ouvertures-là, éventuellement.
Et
l'année d'après, alors c'était les autres, là, qu'on a vu.
Mais même si, en fait, étant donné que tout a été reçu par Moshe, et qu'il y avait une transmission qui était faite de père en fils, etc., pour que quand même on puisse pratiquer cette Torah bien avant donc que les rabbanim produisent le Talmud, eh bien c'est ça qui est difficile à comprendre.
A priori, il y avait des lois qui ont été données. Il y avait Moshe. Et quand Moshe leur dit, on fait comme ça, d'accord, voilà comment. Pour construire une soukha, on a construit les soukhotes, tel que Moshe Rabbeinu leur a dit, construire les soukhotes, disons. D'accord. Mais seulement, les Chachamim qui viennent après, ils disent, mais nous, on voudrait bien savoir où c'est fondé. Ils vont chercher à fonder l'enseignement qu'ils connaissent dans la Torah. Ils vont regarder, et ensuite, ils vont regarder, puisque je le fonde sur ce verset, par exemple, je vais regarder comment je peux travailler ce verset, qui en vérité, comme tous les versets, est d'une certaine manière un hypertexte, d'accord ? Et aussi, je vais regarder son contexte, etc. Et ça va me permettre éventuellement d'enrichir, de dire, ben voilà, la soukha, elle n'a pas obligatoirement quatre murs. Pourquoi ? Parce que dans le texte de la soukha, le texte qui parle de la soukha, c'est marqué certaines fois soukha avec un vav et certaines fois sans vav. Donc si tu fais le total des occurrences du mot soukha avec ou sans vav, etc., ça te donne des éléments pour savoir combien il faut de parois pour faire une soukha. D'accord ? On n'a pas besoin de quatre, obligatoirement, trois ça va aussi. D'accord ? Et bon, et même le troisième, on peut aussi regarder est-ce qu'on a vraiment besoin de mechitsa, parce qu'on va apprendre que, en vérité, les parois pour la soukha, c'est peut-être simplement trois ficelles, d'accord, qui sont à moins de 30 cm l'une des autres, qui sont considérées comme une paroi.
Mais d'où vous mettez surtout l'accent sur la Torah orale, c'est-à-dire, pour revenir à l'exemple que vous preniez tout à l'heure, parce que on a vu plusieurs ouvertures qui parlent de Maaseh Bereshit. Donc lui, il veut dire une chose qui fait qu'il comprend Maaseh Bereshit de cette façon-là. Ou alors, pas seulement de cette façon-là, mais il veut nous indiquer. Alors, parce que je reviens à cette fin de phrase, de cette note, qui lui énonçait la création comme récit. C'est-à-dire, lui, son ouverture principale, l'idée principale, c'est de dire, c'est un récit. Et ce récit-là, il dit qu'il y a un début et il dit qu'il y a une fin. Parce que c'est un récit, c'est un début, une fin. Et c'est ça qu'on devrait comprendre, que c'est un récit. Mais il me semble, et donc ça veut dire que j'ai rien compris, c'est que on a l'impression que c'est évident, puisque ça commence. Donc j'ai un truc que je ne comprends pas, parce que lui, il insiste sur l'idée du récit. Il dit on n'a pas d'explication, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire qu'on raconte. Après, élaborée après avec la Torah de ce que vous dites, mais il me semble que ça se situe là, ce qu'il veut dire par rapport aux autres, quoi, aux autres.
Enfin, non, mais c'est ça. Je crois que ce que lui veut dire par rapport aux autres, il veut dire quelque chose. Il veut nous dire cet appel qu'il y a dans ce texte. Bon, ils disent que ça vient du mot récit. Je connais pas assez bien l'étymologie de récit, oui, etc. Est-ce que le mot récit en français, il appelle ce qu'il dit ici? Parce qu'ici, il y a un appel. D'accord? Ça appelle. Ou l'opérèche. Il n'a pas expliqué. Parce que tu me racontes quelque chose et tu me dis quelque chose, c'est pas expliqué. Alors,
parce que le récit, parce qu'il y a, c'est pas tellement sur l'idée d'appel, mais c'est plutôt sur l'idée de début et fin. Enfin, parce qu'il y en a plein des récits dans la Torah. C'est qu'un grand récit fait de petits récits. Des segments.
Oui, il y a bien des endroits. Ouais. Je vous ai dit, il y a plusieurs récits. Vous prenez le récit de la sortie d'Égypte, par exemple. Ouais.
Mais est-ce que tout n'est pas récit?
Non, parce que quand on te dit, tu prendras.
Oui, par exemple, quand on énonce les générations, quand on te dit, c'est pas forcément un récit. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça dit bien qu'effectivement, le récit, c'est un segment avec un début et une fin. Quoi.
Oui, mais tout est lié. C'est pas seulement qu'il y a un début et une fin. C'est vrai que. On parle d'entité, d'accord. Ça tourne beaucoup autour de. Il parle de Gehinnom tout de suite. Ouais, il parle de. C'est pas marqué dans la Torah. Le mot Gehinnom, il figure même pas dans la Torah. D'accord. Gan ou Eden, oui, Gan be Eden. C'est pas Gan Eden, mais Gan be Eden, oui, ça figure dans la Torah. Le Gehinnom, c'est pas marqué.
Eden, c'est la région, peut-être.
Oui, mais c'est pas. Non. Alors, c'est un jardin dans Eden. Alors, lui, il dit justement, c'est Gehinnom, mais je reviens sur ce que je vous ai dit. Quand on regarde ce début-là, on voit très bien qu'il est en train de dire quelque chose sur la signification du couple Gehinnom-Gan Eden. Il est en train de dire que ce couple-là, il parle. Du fait que qui va aller au Gehinnom, c'est pas les taureaux ni les petits oiseaux, ce sont les hommes qui vont aller au Gehinnom. Donc les hommes, ils vont avoir un rapport avec le Gehinnom et avec le Gan Eden. Mais même le Gan Eden tel qu'il est présenté ici est un endroit de protection et pas un endroit de récompense. On a l'habitude de voir le Gehinnom comme un endroit de récompense. D'accord ? Les tzadikim, ils vont être récompensés, ils vont être dans le Gan Eden. Les rechaïm, ils vont être sanctionnés, ils vont être dans le Gehinnom. Mais ici, tel que c'est présenté, c'est pas présenté comme ça. Alors maintenant, si on y regarde un peu plus près, si on zoome un peu sur les versets, Veloyada ki refaim sham. Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Alors, les commentaires ici, par exemple, il dit la fin du verset, c'est Be iske sheol kouéa. On parle ici, dans ce verset, on parle, c'est sûr qu'avec leur système de ne pas donner la totalité du verset, on ne sait pas. Si on... Alors, bon, c'est pour ça qu'il y a des commentaires qui disent qu'on parle dans ce verset, on parle du sheol. Sheol, c'est la résidence des morts. D'accord? Et donc, on parle du sheol. Et dans le Sheol, il y a un aspect Gehinnom. Et l'Oyada, il ne savait pas qu'il y avait là-bas des figures, des. Ils ont dit les ombres, n'est-ce pas? Ils ont traduit comme ça.
Réfaïn,
c'est ça? Ils ont traduit comme ça, hein? Non? C'est pas ça? Ils ont traduit les ombres.
Oui. Ils ignorent qu'il y a des ombres et que ces appelés sont dans les tréfonds du Sheol.
Donc il savait pas qu'il y avait du monde. Vomer est dans le Navi Yeshayahu, il dit et mikirchiv. Il dit le bûcher de feu est un tréfonds immense, c'est-à-dire, là aussi, il cite seulement, il a approfondi et agrandi. Il ne nous dit pas de quoi on parle, alors heureusement, dans la traduction, ils ont gardé le verset, ce qu'on devrait faire aussi. Et là, maintenant, il dit, maintenant, ce qui est caché, ça je t'ai expliqué ce qui est les profondeurs. Profondeurs, c'est... Maintenant, ce qui est caché, alors là, ça te parle de cette soukha qui est appelée aussi choupa. On ne sait pas très bien si l'agma dans soukha elle discute, est-ce que peut-être ce verset il veut parler de la choupa des tzadikim, c'est-à-dire c'est l'espèce de mariage. Il dit peut-être alors que cet endroit-là sera un endroit où on va s'abriter, d'accord, de, par rapport au zerem. Zerem c'est le courant, c'est le vent, disons. Et le matar, c'est la pluie. Et c'est marqué Tastirem Beseter Panecha. C'est-à-dire, cache-les littéralement. Beseter Panecha, c'est ce qui est écrit chez nous. Maintenant, si on regarde la totalité du verset, c'est marqué tu caches ta face dans le cachet. Ça veut dire Tastirem, tu caches. De cette heure, dans le cachet, Panecha, ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le. C'est pour ça que le Gan Eden, d'accord, est appelé. Il est le Gan, ce lieu-là est un Gan Eden, cet endroit où on est protégé s'appelle un Gan Eden, parce que. Alors. Moi, j'aurais plutôt tendance à lire le verset, la portion de verset qui est là. Cache-les, parce qu'il rêve, je pense. Cache-les, mais c'est un panecha. Dans l'ombre, dans la cachette de ton visage. C'est-à-dire, dans le sens de la protection. Tu protèges. Comment est-ce qu'on peut protéger les hommes? Hachem protège les hommes en les mettant, en faisant de l'ombre pour qu'ils ne soient pas vus. Quelque part, quand on veut cacher quelqu'un, on le met dans l'ombre. Alors, le visage, on sait très bien que, comme on dit dans la tefila, qui veut opanecha, avec la lumière de ton visage qu'on a reçu. Mais il y a la lumière du visage, il y a aussi l'ombre du visage qui, elle, ici, dans ce verset-là, servirait pour cacher, pour protéger. Donc, dans l'idée, ici, on voit très bien que la première idée de ce Rabbi Yehuda Bar Simon, il dit que, il a l'air de dire, ce qu'il faut savoir, d'accord. Avant de commencer, c'est comme ça que j'ouvre l'histoire, c'est que l'être humain, il est faillible, et éventuellement, s'il réussit pas du tout, il va atterrir dans le Gehinnom, et s'il réussit mieux, il aura quand même néanmoins besoin de protection. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la Midat HaDin. Parce que, comme vous savez bien, que Rashi le dit, Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde uniquement avec la Midat HaDin, la mesure de rigueur. La mesure de rigueur, c'est tu fautes, tu meurs. D'accord? Tu fautes, immédiatement, le ticket est plus valable, et puis je t'ai donné la vie dans un monde avec des règles, tu ne respectes pas les règles, ben, tu meurs, tu quittes le monde. D'accord? Donc, Hachem a ajouté le Rachamim, c'est-à-dire, Rechem, c'est la matrice, c'est l'utérus, c'est comme si Hachem allait nous considérer comme le fruit de ses entrailles, et comme le fruit de ses entrailles, on le protège, même si on n'est pas des Anglais avec sommes comme devise, quoi qu'il fasse, c'est quand même c'est mon enfant, quoi, quelque part, c'est la patrie. Donc, Hachem dit, voilà, je vais les protéger. Et c'est ce qu'on dit comme ça. Ça veut dire que, quelque part, qu'est-ce que c'est le monde dans lequel les hommes sont? C'est un monde où, c'est comme si si on arrive à ne pas mériter le Gehinnom, alors Hachem nous protège. Mais qu'en réalité, la condition humaine, à la limite, c'est une condition dans laquelle on ne peut pas être à la hauteur de la création. Puisque c'est ou le Gehinnom, ou bien la nécessité de la protection par Hachem. Donc c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas très chaud, quoi. Ça, c'est une première lecture. Et ensuite, d'avoir à faire autre chose. De nouveau, il dévoile le profond et le caché. Alors, les choses profondes, c'est Maaseem shel Rechaim, les actions des mauvais. C'est marqué Oi, Amaamikim Bar Hashem. Pourquoi c'est appelé profond? Parce que ces gens qui se conduisent mal sont Maamikim, c'est la chaîne profondeur. Et maintenant, au Satrata, Elo Maaseem, je vous ai dit, moi j'ai une version. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont dans la version chez. C'est une version de. Aussi, Maasem chez le Rechaim. C'est aussi les Maïsim. Ça ne marche pas, a priori, ça devrait être les Tzadikim. Je n'ai marre. La Stir et ça.
Ici, c'est la même version. Et l'Oumaasem chez le Rechaim chez Neymar. Oy, Amaamakim.
Ça, c'est le premier. Le deuxième.
Serait ça.
Continuez.
Elouma, c'est Mshel Rechaim à nouveau, chez Niamar, Ve'aya, Ve'marchar, Maaseem. Non, c'est pas ça. On n'a pas la même version. Hein? Et toi, t'as autre chose?
Qu'est-ce que vous avez, vous?
La Seter, et ça. Yada, Ma, Bachash.
Oui, mais c'est aussi. Oui, mais juste avant la Stir et ça, qu'est-ce qui est marqué avant? Rechaim ou Sadikim?
J'ai Rechaim.
Rechaim aussi.
Oui.
C'est ça. Donc ça veut dire, quelque part, ici, il envisage. Ça va, c'est encore pire que dans la première partie.
Oui.
D'accord? On parle que de Rechaim. Il y a les Rechaim qui sont dans les profondeurs, et puis il y a les Rechaim qui, eux, vont être cachés de nouveau. La stire, il va y avoir, ils vont être cachés si on peut parler comme ça.
Mais après, on a les Maaseem des
Tzadikim. Et alors ensuite, il dit Yada,
oui,
Ma Brachoucha, Elu Maaseem, Shel Rechaim, de nouveau. Celui qui sait ce qui se passe dans les ténèbres, ben c'est les actions des Rechaim, oui. Il sait ce que c'est. Shenemar Ve'aya Kemarchach Maaseem. D'accord, que leurs actions sont des actions qui en ténèbres, si vous voulez. Unora ime. Alors maintenant, il revient sur le pasouk de Daniel. D'accord, où c'est marqué ou galé amikta amikata ou misrata unora ime, et il y a de la lumière avec lui. D'accord, ime shere, elu maasem shel tzadikim. Yirtiv ve'orach tzadikim ke'or nogar. Donc on voit très bien que tout le pasouk avec lequel il a commencé, il l'interprète comme concernant les Rechaïm. Et les Tzadikim, pour les Tzadikim, là, il prend la deuxième partie du verset.
Ah, oui.
D'accord ? Celle qu'il n'a pas citée ici. Donc en vérité, même les Rechaïm, d'une certaine manière, et ils sont aussi, ce qui est caché, c'est aussi les Maasim des Rechaïm. Ils sont en profondeur, ils sont cachés, et parce que non seulement bon, c'est caché, c'est donc, quand c'est caché, c'est assombri, quoi. Et donc, dans les Maasim des Rechaïm sont l'enténébrement, en quelque sorte. Mais par contre, le Em Meshoresh Aor chez Yvdil La'atzmo. Donc, les Tzadikim, eux, ils sont enracinés dans la lumière que Hachem a choisie, en fait. Maasim, c'est le, ici, lui, il dit. Le Marzou, il explique à Mahamikim et Hachem, la première partie, la fin du verset, c'est la Stiretsa. Voir ce qui est cité là, chez nous. C'est-à-dire, Notnim Etsa, qui cherche, il complote en vérité, Etsa Amuka, il cherche une idée très profonde, les Astir Ra'atam, pour cacher leur méchanceté, Vomrim Shein Roeotam Khalila. Et comment est-ce qu'ils s'en sortent? En se disant qu'Hachem ne voit pas. Donc, il y a des psukim comme ça dans les Tehilim. On dit que les Rechaïm, ils s'imaginent qu'Hachem ne voit pas. Hachem ne voit pas ce qu'ils font de mal. Ou Masirim Atzmam Ibnei Adam Bechadrei Chadarim. Bien sûr, par rapport aux hommes, ils se cachent. Donc ils font leur saleté en cachette. Ou Bachosher, et dans les ténèbres. Zéou Bemarchach Maaseyem. Leurs actions sont faites dans les ténèbres. Mais Aïn le Kaman, regarde plus bas, et encore d'autres endroits. Yadama b'chashukha, zé pour anoutam shel rechaim begino. C'est les sanctions, les malheurs, quoi, et les souffrances des rechaim dans le geino. C'est une autre racha. Ou ne raime share, zé scharam shel tzadikim begaleden. Donc plus bas, on a une version plus classique, où le Gan Eden c'est un sahar, c'est une récompense, ou le Guinom, c'est une sanction. Mais ici, on n'est pas, ici, c'est pas comme ça. Alors, on dit, voilà, les Salgim, eux, ils éclairent devant Hachem. Ner Mitzvah, Torah Or, etc. Et on fait de Racha que Mitzvah chez Adam, on sait, c'est qu'il ou Madlikner, c'est comme s'il allumait une lumière. Ok, donc ça c'est le début. Donc, ou bien le couple Gainom ou protection, et dans la deuxième lecture, c'est les Rechaïm qui s'imaginent qu'ils peuvent se cacher, mais en fait, à la limite, ils produisent de l'obscurité. Bon, les Tzadikim, au contraire, ils produisent de la lumière. Donc, du coup, c'est l'obscurité et la lumière sont, d'une certaine manière, une production des hommes. C'est pas une donnée où on donne aux hommes qui se conduisent mal, on les met dans l'obscurité, et ceux qui se conduisent bien, moins mal, si vous voulez, on les protège, on les met à l'ombre. Là, et après, il y a la lecture classique, plus claire. Non, ils produisent vraiment de l'obscurité ou bien ils produisent de la lumière. Ensuite, on ramène ce Rabbi Abba Srongaya, je ne sais pas si c'est un endroit.
Excusez-moi, juste un instant, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'ici, ils produisent, les Rechaïm produisent de l'obscurité, les Tzadikim produisent de la lumière, mais ici, on n'explique toujours pas. Qui voit cette lumière, qui voit cette obscurité?
C'est marqué, les commentateurs ils disent l'Ifné Hachem. Ils produisent devant le Hachem de la lumière.
Ouais, ouais.
Alors il y a une autre lecture qui dit que la lumière qui est avec lui, avec Hachem, finalement, c'est le, ou celui qui est avec la lumière d'Hachem, plus exactement, c'est le Mashiach. Juste en passant comme ça. Lui, il a ajouté que la lumière, c'est pas les tzadikim, c'est ce verset, il parle pas des tzadikim, il parle du Mashiach. Celui qui est avec la lumière, c'est le Mashiach. Ensuite, il amène la Psikta, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une autre source pour ce même Rabbi Yehuda Bar Shimon, dans une Psikta, c'est un autre recueil, si vous voulez, d'enseignement. Là-bas, on dit que Trilat Briato Shel Olam Ugale Amikata, donc depuis le début, il a dévoilé. Alors, qu'est-ce que la différence entre le Midrash et la Psikta? On a l'impression que le Midrash en question, le début ici, il ne parle pas du tout du Passouk de Bereshit. Il parle de quelque chose qui serait dans l'abstraction, quoi, avant, indépendamment de la notion de création. Tandis qu'ici, il dit, non, non, c'est dans Bereshit qu'on peut lire ça. D'accord? Peut-être, lui, il est... Est-ce que cette Psikta, elle vient... corriger, ou elle vient expliquer, mieux expliquer, parce que l'autre était presque incompréhensible, on ne sait même pas de quoi il parle. Là, il dit non, je te parle déjà au début de la, c'est déjà dans le Bereshit Bara Elohim, d'accord, qui est, j'ai déjà ce problème-là. Et peut-être qu'on a besoin du travail qui a été produit par Rabbi Yehuda dans, dans le Midrash, pour pouvoir comprendre dans la Psikta, ici, que il faut, se dire que Bereshit, c'est lui-même, les psukim de Bereshit ne sont pas explicites, on ne sait pas de quoi il parle. Pas seulement ce passouk dans Daniel, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, bon, ça c'est Daniel, mais ici le passouk de la Torah non plus, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et il veut dire que lui, il dit, le passouk de Daniel, il vient me dire, effectivement, que c'était dès le début, il faut l'appliquer non pas avant, mais au début. Pas avant la création, mais au début de la création.
Mais c'est le même rabbi, pourtant, qui s'explique.
C'est le même. C'est l'autre, mais c'est deux lectures de on peut imaginer que c'est deux maîtres, qui ont rapporté l'enseignement de Rabbi Yehuda Bar Shimon, ou bien lui-même, il a un petit peu évolué. Il a, d'abord, il a changé d'avis, il a, enfin, pas changé d'avis, mais en tout cas, il a dit quelque chose qui est plus compréhensible. Bon, on est déjà en train de parler de Psukim, au moins, on est un peu plus à la maison que quand il parle d'un passage dans Daniel, comme ça. Mais, alors, où est-ce qu'il a expliqué? De nouveau la même chose, toujours en expliquant. L'explication, elle est toujours dans le Nach, et pas dans, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, mais pas dans la Torah. Othéor, qu'un Salma,
mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette ouverture, par exemple, par rapport à celle de la semaine dernière où l'ouverture disait, enfin, en tout cas, un petit peu, cette idée de limitation, de ne pas essayer d'aller expliciter quelque chose qu'on ne connaîtrait pas très bien et que du coup, pourrait s'enorgueillir, on pourrait. Il y a une limite, il y a quelque chose qui nous échappe et c'est comme telle, comme une loi presque. Établi devant Hachem qu'il y ait des choses qui nous échappent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là sur cette ouverture comme enseignement pour nous?
Il veut même dire un peu plus. Il veut dire que même quand on te dit quelque chose, si tu y regardes un peu plus près, le texte n'est pas il n'est pas self-contained, ça veut dire il n'est pas clos sur soi.
C'est ça, ok, d'accord. Donc en fait, finalement, c'est comme si quand il dit il dévoile le tréfonds et les cachets, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il dit que c'est comme s'il disait que c'était fait exprès que ça soit caché, en fait. C'est-à-dire que comme principe même de chercher à dévoiler par nous-mêmes, comme concomitant de la nature humaine, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment à nous de faire ça.
Mais en même temps, je te dis quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a ces deux pôles de Guéhinnom et de Gan Eden. C'est sûr le couple.
Mais c'est ça que je comprends pas.
Ce qui ne retire pas le fait qu'ils doivent rechercher et étudier et travailler dans le sens d'une plus grande satisfaction.
C'est un peu la même chose. C'est un peu. Ouais, si, j'entends aussi comme ça. Ouais. Mais vous semblez mettre. Parce que j'ai regardé un peu aussi la notion de récit. Il y a dans le récit le passage de l'écrit à l'oral. En fait, un récit, souvent, c'est fait pour être dit. Et donc, c'est comme si. Et donc, si c'est dit, il y a une oralité, il y a une transmission, j'ai l'impression, ce qui correspond un peu à ce que vous dites. Mais vous mettez à l'intérieur de ce segment-là, vous pointez l'idée du. Enfin, vous pointez l'exemple de la Guéhenne et du Gan Eden. Mais ça, je
me souviens, c'est ce qu'il dit.
Oui, mais il dit aussi à d'autres endroits, et là, vous restez sur ce principalement là-dessus. Parce que vous dites, il ne faut pas oublier l'idée du Gan Eden, quand j'ai dit juste avant, vous dites, il ne faut pas oublier le. Oui, mais il y a.
Il ne parle que de ça. Il parle que du Gan Eden et de la.
Ah, c'est ça qu'il parle, hein.
Donc, avant de parler dans la psychta.
Avant de parler dans la psychta. Ah oui, et d'accord.
Dans le midrash, mais il parle que de ça. Et lui,
oui.
Ce midrash qui parle, disons, sans référence du tout. À la paracha de Bereshit, ça veut dire qu'à la limite, ceux qui ont entendu l'enseignement sera vu d'Abar Simon dans cette version-là, ils se demandaient, mais il a dû se tromper, il s'est trompé de jour, quoi, de quoi il vient nous parler là. Il ne parle pas de Bereshit. Dans la psychta, il parle de Bereshit, il te dit, voilà, je vais éclairer Bereshit avec ce verset, c'est d'habitude comme ça que ça se passe.
Oui, d'accord.
Donc lui, il commence par amener le verset avec lequel il va éclairer, mais il dit lui-même ce verset avec lequel il faut d'abord regarder ce qu'il dit ce verset. Et on va éclairer.
Parce qu'il est le plus incompréhensible.
Je vais bombarder.
Ou ce qui est plus caché.
Pour essayer de voir ce qui se passe dans le récit avec un verset dont je ne sais même pas ce qu'il est en train de me raconter. Alors on va d'abord regarder ce que lui il dit, et puis après. Donc ça veut dire que...
Comme s'il donnait une méthodologie avant même...
Il faut d'abord savoir...
Comme un exemple même de ce qu'il faudrait faire.
Si tu sais pas... reprenons mon exemple. J'ai un certain objet. Si je ne sais pas à quelle température je le soumets, je ne sais pas avec quoi je le bombarde, qu'est-ce que ça va me dire? Ça ne me dira rien du tout. Donc il faut d'abord savoir avec quoi je le bombarde, pour savoir... je vais voir la réaction qu'il va avoir avec quand je mets, quand je tire dessus, quand je chauffe, etc. Mais si je ne sais pas si à quelle température je le chauffe, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir comment je pourrais rien dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, quand c'est un peu chaud, ça gonfle. Mais bon, c'est pas intéressant. Il faut dire voilà, ça va jusqu'à tel et tel. Il est en phase de liquide à telle et telle température, gazeuse à telle et telle température. Voilà, ça c'est une information. Mais autrement, ce n'est pas une information. On va dire, regarde bien, tu verras bien que ce verset-là, chez Daniel, il te parle du fameux couple Guéhinnom et Gan Eden, et il te dit quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je n'avais jamais entendu. Enfin bon, ça ne prouve rien du tout, mais je n'ai jamais entendu le Gan Eden comme un endroit...
Le protéine
s'abrite. Moi, je pensais que le Gan Eden, c'est un endroit de récompense. C'est pas vrai. Et en tout cas, lui, il dit, moi, je le vois pas comme ça. Et bien, le problème, c'est si tu bombardes avec ça, Bereshit, et dans la psyché, il dit, je vais bombarder avec ça. Je vais regarder ce que ça donne avec ça, avec ce verset-là. Mais c'est... En fait, tout ce qu'on voit là-bas, c'est que on voit très bien dans ce verset, qu'est-ce qu'on a appris de ce verset qui nous éclaire dans Bereshit. Tout ce qu'on a vu, c'est que les versets peuvent être des versets qui ont besoin d'un éclairage d'un autre verset.
C'est ça. Mais c'est comme si... Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Donc cette continuité et donc cette...
Tout le temps.
Donc, et donc, quand on aura essayé.
Ah oui, c'est ça. Et d'abord, tu...
Ça finit jamais. On revient sur ce que...
Et c'est presque un infini parce que, à la limite, les versets qu'on a pris, le Michelet, etc., est-ce que peut-être ils n'ont pas besoin d'un éclairage extérieur pour savoir ce qu'ils disent vraiment.
Mais ça, c'est avec la Torah orale. C'est fort.
C'est comme s'il disait... Enfin, je fais un raccourci. Je compresse le truc, mais c'est comme s'il disait... bon, mais c'est... Maaseh Bereshit, c'est l'étude. C'est comme s'il plaçait l'étude avant même le...
Il faut savoir que si tu étudies pas vraiment, tu ne pourras rien savoir.
Mais est-ce qu'on ne veut pas dire que là, le rabbi Simon, là, ce qu'il a attiré pour bombarder avec ça, c'est peut-être parce que, je ne sais pas si c'est le verset qui dit ça, mais parce qu'il dit Ougalé, effectivement, il dit, le verset dit Ougalé,
Amikata.
Amikata.
Mais donc, ça
par contre,
tout.
Oui, par contre, ça peut être attaché à Bereshit. Parce qu'on parle bien sûr, là, des profondeurs, des choses indicibles.
Alors, je peux pas dire.
Pourquoi Guéhinnom, le
Bereshit? Mais dans ce verset lui-même, des choses, quand tu dis je te parle des choses profondes et des choses cachées, tu m'as rien dit, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est profond?
Mais là, c'est dans le verset.
Non, c'est pas écrit dedans.
Le Guéhinnom,
il n'est pas marqué dans le verset,
je suppose.
Non,
non.
C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Il reprend.
Ah, je pensais.
Ougalé Amikata, qu'est-ce que c'est? Zougeinom.
Ah, c'est lui qui dit.
Oui. On peut dire les choses les plus profondes, après cette première lecture. Et les choses profondes et cachées, si d'une certaine manière, c'est avant qu'il y ait un monde, il y a des choses déjà qui sont profondes et cachées, et qui vont être un arrière-plan du monde, si vous voulez, de toute manière. Bon, ben c'est le problème du Guéhinnom et le problème du Gan Eden. On a l'impression que, voilà, on a les deux termes extrêmes, on a les éléments, c'est ça, le caché et le profond, par excellence, c'est-à-dire. Après, il y a une deuxième, qui nous lance, c'est les actions des hommes. Les actions les bonnes et les mauvaises actions des hommes. C'est ça les choses les plus importantes, les choses profondes et les choses cachées, c'est effectivement les actions des hommes.
Le deuxième
d'avoir à faire autre chose. Voilà, on s'arrête là.